RTL Info.
Le journal Stéphanie Wenker.
Bonsoir. Une prostituée récidiviste aurait extorqué 30 000 francs à ses clients adeptes de pratiques sadomasochistes. Le ministère public neuchâtelois requiert une peine de 23 mois de prison ferme et une expulsion du territoire helvétique. Le jugement sera rendu à la fin du mois. Les Neuchâtelois se rendent aux urnes ce dimanche lors des élections cantonales. Pour l'heure, le taux de participation au scrutin est plutôt faible. Le Covid pourrait expliquer en partie ce manque d'engouement. Des arrivées à huis clos, sans public et des champions au départ. La 74e édition du Tour de Romandie cycliste se dévoile. Elle comprendra aussi le 29 avril une étape musclée entre Lanneville et Saint-Imier. La météo reste variable pendant toute cette nuit avant le retour du soleil prévu dès demain matin. 23 mois de prison ferme et une expulsion du territoire suisse requis contre une prostituée. Une trentenaire a comparu ce matin devant le tribunal du littoral et du Val de Travers à Boudry. Prévenue d'une multitude d'infractions, elle est notamment accusée d'avoir commis plusieurs chantages et escroqueries en marge de ses activités pratiquées dans l'illégalité. Le montant du dommage dépasse 30 000 francs. Vos explications, Yann Esler.
Ta femme, tes enfants et tes employés vont tout savoir. Selon le ministère public, la prévenue aurait fait régner la terreur avec ses clients. Exerçant des relations SM tarifées de manière illégale, la jeune femme les faisait ensuite chanter. Entre 2018 et 2020, elle a donc fait vivre un petit enfer à 5 personnes en les bombardant de messages et d'appels s'ils ne répondaient pas, en les menaçant constamment de tout révéler, passant parfois à l'acte. La trentenaire aurait même écrit qu'elle allait attenter à leur intégrité physique. Durant des journées plaignants et lésés ont donc été harcelés avec des multitudes d'appels et de messages composés de flots d'insultes et de tentatives d'intimidation. La jeune femme serait même allée à transférer des clichés compromettants à des collaborateurs et créer des fausses petites annonces sur des sites gays en utilisant les noms de ses clients pour les mettre encore plus sous pression. Des agissements qui ne se sont stoppés que lorsque la prévenue a été placée en prison de manière provisoire. En effet, elle était au bénéfice d'un sursis d'une précédente affaire.
Mais Yann, ses agissements étaient en fait liés à son parcours familial.
Oui, alors qui pourrait imaginer que cette jeune femme, calme, à l'apparence soignée et plutôt intelligente, se transforme en monstre de colère? C'est ce qu'a déterminé l'analyse psychiatrique qui lui attribue une personnalité borderline. Pour expliquer son comportement, cette dernière incrimine son parcours familial. Née en République démocratique du Congo, puis emmenée en Suisse à l'âge de 3 ans, elle a ensuite été abandonnée par son père alcoolique, puis par sa belle-mère alors qu'elle était âgée de 13 ans. Bien que sans emploi et à l'aide sociale, cette trentenaire est toutefois en passe d'obtenir un bachelor dans une université du pays, malgré son parcours chaotique.
Mais le ministère public est en tout cas clair, il n'y a pas de circonstances atténuantes.
Oui, la culpabilité de la prévenue est grave et cette dernière possède des antécédents. Vu qu'il s'agirait de la troisième condamnation pour des faits similaires, le sursis, même partiel, est exclu. La procureure requiert donc 23 mois de prison ferme et une expulsion obligatoire pour une durée de 6 ans du territoire helvétique. Elle doit aussi être maintenue en détention pour des motifs de sûreté. Alors pour motiver l'expulsion, le ministère public avance qu'elle a un permis C, pas de famille proche ni de travail. Ici en Suisse, elle dépend de l'aide sociale et ses revenus sont issus de la prostitution illégale ainsi que de ses extorsions. Du côté de la défense, on ne conteste donc pas les faits, mais en raison du passif familial, l'avocate demande que la condamnation n'excède pas 8 mois, moins les jours déjà purgés en prison, et que cette détention se fasse avec un traitement psychiatrique en ambulatoire. Et de son côté, dans son repentir, la prévenue dit reconnaître ses erreurs et elle assumera le jugement ainsi que le traitement. Mais elle demande de ne pas être renvoyée. Selon elle, toute sa vie est ici.
Merci Yann Esler pour vos précisions. Le jugement sera rendu le 30 avril. Les Neuchâtelois votent ce dimanche pour élire leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d'État. Les électeurs ont reçu leurs enveloppes de vote il y a quelques semaines déjà. Mais pour l'heure, le taux de participation au scrutin est faible. Il s'élevait hier soir à 12,9%. C'est 3% de moins qu'à la même époque lors des dernières cantonales en 2017. Une tendance qu'a de la peine à expliquer le vice-chancelier du canton de Neuchâtel, Pascal Fontana.
Une tendance qu'on ressent depuis le début, les premiers jours du vote par correspondance. Alors, est-ce que c'est dû à la pandémie, puisqu'il y a moins de stands dans les rues? Est-ce que c'est dû parce qu'on est en période de vacances? Voilà, je ne peux pas vous dire. Ça demeure une inconnue pour l'instant, en tout cas.
Pour le professeur en sciences politiques de l'Université de Genève, Pascal Ciarini, plusieurs paramètres peuvent expliquer un faible taux de participation. Les Neuchâtelois ont déjà dû voter l'année dernière lors des communales, puis en mars pour des votations fédérales. Il peut donc y avoir un phénomène de fatigue démocratique. Mais la crise du Covid a également joué son rôle, Pascal Ciarini.
La campagne électorale se déroule dans des conditions très particulières. On ne peut pas organiser de meeting, on ne peut pas aller dans la rue, aller au contact des gens. Et c'est clair que de cette manière, on arrive moins à mobiliser l'électorat, même si les efforts sont faits via les réseaux sociaux, via la télévision, la radio, les médias. C'est quand même pas pareil qu'une campagne normale. Or, on sait que le taux de participation augmente avec l'intensité de la campagne. Par ailleurs, pour cette même raison de crise du Covid, on peut aussi penser que les gens n'ont pas vraiment la tête à la politique, en tout cas pas tous. Peut-être que des gens sont en souci d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue familial pour des raisons de maladie. Et donc, on peut imaginer que ces personnes-là ne se sont pas encore intéressées aux élections et peut-être vont le faire d'ici à dimanche, mais peut-être pas.
À noter que le taux de participation aux élections cantonales neuchâteloises s'élevait ce midi à près de 15%. Et puis ce dimanche, RTN vous fera vivre en direct le résultat de ce scrutin dès midi sur notre site internet rtn.ch et dès 13h avec une émission spéciale à suivre sur nos ondes. Une nouvelle tête pensante pour le château de Grandson. Liliane Feger a été nommée au poste de directrice depuis le 1er mars. La fondation en charge de l'édifice l'a annoncé en février. La franco-allemande aura notamment pour tâche de revoir la muséographie et de la moderniser. Son objectif est de tripler le nombre de visites en 4 ou 5 ans. Avant d'arriver à Grandson, Liliane Feger habitait et travaillait à Lyon. Elle ne connaissait donc pas grand-chose de la cité d'Othon avant de postuler.
Alors moi, c'est effectivement à travers le poste qui a été ouvert, j'ai découvert le lieu et j'en étais fascinée au point qu'effectivement, j'ai postulé et je suis aujourd'hui donc retenue et en poste en tant que directrice. Pour moi, c'est une découverte d'un point extrêmement important dans l'histoire de la Suisse et des confédérés. Et je pense que c'est ceci qui m'a attirée, en plus du fait qu'il y avait effectivement tout un projet à créer et ça, c'est mon domaine d'activité.
Vous avez découvert qu'il y avait un poste ouvert et puis du coup, vous avez un petit peu feuilleté des bouquins d'histoire. Expliquez-nous.
Tout à fait. J'ai vu le poste et je me suis dit, je suis compétente pour ce poste parce que j'ai à la fois le volet culture, mais j'ai aussi le volet gestion d'entreprise. Et du coup, je me suis intéressée à l'histoire de Grandson, à la bataille de Grandson, l'environnement. Et j'ai découvert un sujet d'histoire absolument fascinant. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, j'ai postulé pour ce poste.
Liliane Feger qui répondait à David Sanchez. Le château de Grandson est le deuxième plus grand château de Suisse après celui de Chillon. Le monument a connu son moment de gloire lors des guerres de Bourgogne qui ont opposé Charles le Téméraire aux confédérés. La nouvelle loi de lutte contre le terrorisme doit donner à la police fédérale en particulier des moyens pour surveiller les terroristes potentiels et les empêcher de commettre des attentats. Cette loi est soumise au peuple le 13 juin parce qu'elle est combattue par référendum. Elle sacrifierait des droits fondamentaux sur l'autel d'une illusoire sécurité. Aujourd'hui à Berne, la ministre de la Justice et Police, Karine Keller-Souter, a lancé la campagne avec détermination. Elle conteste les accusations de non-respect des droits humains.
C'est moi qui, avec les cantons, ai commandé cette expertise auprès du professeur Donatch, qui a des avis différents entre les professeurs, nous le savons. Hein. Mais ici, finalement, ce qui est essentiel, c'est que les commissions et aussi le Conseil fédéral ont vraiment examiné ces questions. Il s'agit ici d'une loi qui est comparable à celle que nous avons dans le domaine de la violence conjugale, dans celle que nous avons contre les hooligans. Il s'agit de mesures préventives. Et ce qui est essentiel, c'est que vous avez d'une part une base légale, vous avez des délais clairs, vous avez des possibilités de recours. Et il faut aussi dire que là, cette loi s'applique seulement lorsque les cantons ne sont plus en mesure de vraiment pouvoir traiter les cas qu'ils ont dans les cantons. Il y a des lois comparables en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, dans les Pays-Bas. Tous les pays sont aussi soumis au même droit international.
De leur côté, les référendaires ont également fait entendre leur voix à Berne. Ils émanent des jeunesses, de partis politiques de gauche, des Verts libéraux et du PLR. Plusieurs ONG humanitaires s'opposent également à la loi avec ce slogan « Non aux privations arbitraires de liberté ». Le vice-président des jeunes libéraux radicaux, Nicolas Jutzet, explique pourquoi il s'oppose à la loi.
Parce que cette loi pose la question de la liberté, de la manière dont on voit l'état de droit pour défendre la liberté. Et pour nous, en tant que personnes qui sont intéressées et qui défendent la liberté au jour le jour, il nous paraissait intéressant et important de dire qu'on peut combattre le terrorisme, mais pas au prix de l'état de droit. Et l'état de droit doit garantir la liberté de chacun et aussi assurer la sécurité. Mais l'un ne doit pas aller contre l'autre. Et nous, on dit que dans le doute, la liberté est plus importante que cette promesse de sécurité.
Et c'est donc le peuple qui tranchera le 13 juin prochain. 4 critères sur 5 ne sont pas remplis pour une réouverture, selon la chef de la section contrôle des infections de l'OFSP. Devant les médias cet après-midi, Virginie Masseret a précisé qu'il ne s'agissait que de valeurs indicatives. Par exemple, l'occupation des soins intensifs doit être inférieure à 250, ce qui est le cas actuellement. Mais par contre, l'incidence sur 14 jours devrait être inférieure à 220, alors qu'elle se situe aujourd'hui à 296. De plus, la situation reste fragile avec les nouvelles infections qui continuent d'augmenter, mais plus lentement et de manière continue avec des conséquences qui restent gérables, toujours selon Virginie Masseret. 70% des plus de 75 ans ont reçu une dose du vaccin. Au niveau suisse, 8% de la population a été entièrement vaccinée contre le Covid-19 et au moins 13% ont reçu une dose. La priorité reste de vacciner les personnes les plus vulnérables, à savoir les plus de 65 ans, les malades chroniques ou les personnes vivant dans une institution. Et puis la vaccination commence à montrer ses effets. Chez les plus de 75 ans, justement, les personnes sont moins touchées par le Covid-19, selon le président de l'Association des médecins cantonaux. Selon lui, il faudra probablement attendre cet automne pour que toutes les personnes qui le souhaitent soient vaccinées. Et toujours sur le sujet vaccination, les Romands sont les plus sceptiques. Selon un sondage, le taux de vaccinosceptique est deux fois plus élevé en Romandie qu'ailleurs dans le reste de la Suisse. Ce rapport montre que ce sont les effets secondaires qui font le plus peur. Sur l'ensemble de la Suisse, les femmes sont davantage réticentes à se faire vacciner car plus sujettes aux effets secondaires. Les jeunes aussi sont davantage contre l'administration d'une dose. Aux États-Unis, une pause est recommandée dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson. Les autorités sanitaires américaines vont enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes. 6 cas ont été rapportés chez des femmes de 18 à 48 ans. Leurs symptômes sont apparus 6 à 13 jours après l'injection. Près de 7 millions de doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson ont déjà été administrées sur le territoire américain.
18h12 sur RTN, on passe au sport.
Sport. Avec les détails du prochain Tour de Romandie cycliste qui sont désormais connus, la 74e édition a été dévoilée ce matin. Elle se déroulera entre le 27 avril et le 2 mai, sans spectateurs aux arrivées mais avec des champions au départ. Chris Froome, Geraint Thomas, Peter Sagan ou encore le jeune prodige helvétique Mark Hirschi. Les organisateurs ont dû adapter leur événement en fonction d'un protocole strict par la mise en place de bulles sanitaires pour les coureurs et leur encadrement ainsi que pour les membres de l'organisation. De quoi compliquer la logistique. Richard Chassot est de son côté soulagé que sa course puisse avoir lieu. L'annulation de l'an dernier l'avait précipité dans les chiffres rouges.
Ouais, alors les pertes ont été assez lourdes sur 2020, mais par chance, elles ont été en fait supportées par la Loterie Romande et le Fonds des Sports qui nous ont laissé en fait la subvention qui est mise en place chaque année pour le Tour de Romandie. Il y a juste une déduction en fait par rapport à des coûts économisés, mais ils nous ont laissé la subvention et par une somme aussi d'argent qui a été versée par l'Office fédéral du sport dans le cadre du soutien au sport. Donc on a réussi en fait à être à zéro. Tout ce qu'on avait dépensé et pas pu organiser en 2020, on a pu repartir à zéro. Et là, c'est clair qu'on a pris d'autres risques parce que si tout d'un coup, à 10 jours, on ne pouvait pas le faire, là, les engagements financiers sont encore bien au-delà du million. Donc là, c'est pour ça qu'on doit absolument le faire maintenant. C'est une prise de décision qui s'est faite avec les fondations, les sponsors et tout. Et c'est clair qu'il y a de la perte de visibilité pour les sponsors, et de la perte de proximité avec le public, mais tout le monde a joué le jeu pour qu'on puisse quand même faire le Tour de Romandie cette année, qu'un Tour de Romandie spécial, pour pas qu'il disparaisse. Parce qu'à ce niveau-là, la compétition n'a pas existé pendant 2-3 ans, ce serait extrêmement dangereux. Mais notre première mission est de gagner une course de vélo. C'est notre challenge, c'est à quoi on s'est engagé. D'avoir des villages de sponsors, d'avoir des écrans géants, tout ça, ça va avec. Mais la première mission, c'est d'organiser une course de vélo.
Et ce 74e Tour de Romandie s'arrêtera dans l'Arc Jurassien à l'occasion de la deuxième étape entre la Neuville et Saint-Imier jeudi 29 avril. Une étape truffée de difficultés avec des ascensions successives sur le plateau de Diesse, Chaumont, les Bugnonnais et enfin la vue des Alpes à 17 km de l'arrivée. Menu musclé, comme en convient Bernard Berchi, le concepteur du parcours.
Déjà, quand on va dans le Jura, on sait que c'est déjà dur par le terrain lui-même, il est dur déjà. Donc, on ne peut pas faire des courses pour un sprinter dans le Jura, quoi, ça c'est clair. Le souhait aussi de Saint-Imier, c'était qu'on passe deux fois sur la ligne avant l'arrivée. Donc, on a composé avec ça. Et puis, voilà, ce sera une étape où je pense qu'il y a un sprint pour 20 ou 30 sur la ligne en même temps, ce sera pas mal, quoi.
Mais le but, ce n'est pas que cette étape, finalement, soit trop sélective. Parce que le Tour de Romandie, en général, ne se joue pas forcément sur ce genre d'étape.
Non, je ne pense pas qu'il sera joué à Saint-Imier. Par contre, il y en a qui vont peut-être perdre le Tour de Romandie à Saint-Imier déjà, parce qu'il faudra être là. Puis la météo, certainement, on souhaite qu'elle soit bonne. Mais si on n'a pas une bonne météo, eh ben, ça va jouer un sacré rôle pour la victoire finale, quoi.
Un sujet réalisé par Marcel Neuenschwander. Outre Saint-Imier, les autres têtes d'étape seront Martigny, Estavayer-le-Lac, Thion-du-Mille et Fribourg, où se déroulera le contre-la-montre final.
Et oui, voici la météo avec un ciel qui sera encore nuageux ces prochaines heures, mais qui redeviendra plus clair en cours de nuit prochaine. Nuit qui sera donc étoilée, mais froide, 0 degré au pied du massif, moins 5 dans les montagnes neuchâteloises. Demain, le scénario sera assez identique à celui qu'on a connu aujourd'hui, à savoir une matinée et une première partie de journée bien ensoleillée, quelques nuages un peu plus présents en fin de journée et des températures tout juste de saison, maximum 10 degrés au pied du massif, 4 dans les montagnes neuchâteloises.
Qui va s'emparer du château de Neuchâtel ? Le verdict des urnes approche et RTN déploie toutes ses forces pour que vous ne manquiez rien des élections cantonales neuchâteloises ce dimanche 18 avril. Proximité et réactivité au cœur de notre émission spéciale de 13h à 21h en direct de notre studio délocalisé au château. Résultats, analyses et réactions auprès des différents partis politiques. Restez également connectés sur rtn.ch avec notre minute par minute agrémentée d'interviews, d'images et de vidéos de la Toile aux ondes, votre radio régionale, chez vous et partout.